Tipeee. Dans cette édition, on va bien sûr suivre la séance de l'Assemblée pour parler de Google, des PPN et de détournement d'aide. Et puis, on vous donne aussi des nouvelles du registre du commerce en fin d'édition. Le journal de la mi-journée de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence de suite cette édition du côté de l'Assemblée.
Oui, les élus sont réunis à l'occasion de la 6e séance de la session budgétaire avec beaucoup de questions orales au programme. L'une concerne Google, elle vient d'Edouard Fritsch. Le chef de file de l'opposition a interrogé le président du pays sur la gestion et l'impact du projet du géant américain. Il reproche au gouvernement d'avoir dû apprendre par Radio 1 certains détails du projet et fustige le manque de transparence de l'exécutif, puisque depuis le début, c'est Moeté Brotherson qui gère seul ce dossier. Réponse cinglante de l'intéressé.
Contrairement donc à ce que vous insinuez, il n'y a aucun manque de transparence et encore moins de coopération interministérielle. Mais oui, ce gouvernement a un chef, son président, qui, lorsque la situation l'exige, pilote et coordonne. C'est peut-être ce qui vous a manqué à votre époque. Comme j'ai pu le préciser, il y a effectivement une capacité résiduelle qui pourra être mise à la disposition de la Polynésie au travers de l'OPT. Les discussions sont actuellement en cours entre l'OPT et Google afin de fixer les coûts d'usage de ces capacités ainsi que le calendrier de mise à disposition.
Quant à la transparence, Moeté Brotherson a rappelé que toutes les parties prenantes ont signé un accord de confidentialité. Comme d'habitude, il a indiqué que les discussions sont en cours sur les coûts des capacités que pourront apporter les câbles Google sans indiquer de calendrier. Et le président du Tapora s'inquiétait aussi de ce qu'il voit comme une mise à l'écart des câbles Honotua et Manatea, qui sont loin d'être saturés, dit-il. Eh bien, pas du tout, répond Moeté Brotherson. Il n'y a aucune remise en cause des câbles existants. Et il a déroulé les avantages pour la Polynésie, sécurisation et gain de rapidité, notamment pour les professionnels.
Contrairement à ce que vous avancez, cela ne remet pas en cause les câbles existants et Honotua en particulier, puisque ces capacités supplémentaires, outre changer la donne, viendront secourir les câbles existants et permettent de disposer de capacités de raccordement au-delà de la fin de vie de Honotua.
Et enfin, Edouard Fritsch demandait des précisions sur les retombées économiques attendues de la construction des stations d'atterrage des deux segments du câble qui seront raccordés à Tahiti. Moeté Brotherson estime l'investissement du géant américain à 20 milliards de francs sans défiscalisation, a-t-il précisé.
On parlait aussi de PPN et de PGC ce matin.
Et oui, les produits de première nécessité, les produits de grande consommation qui font l'objet, vous le savez, de mesures d'encadrement, voire de fixation des prix et des marges. Un système que le gouvernement veut réformer, Warren Dexter l'avait réaffirmé sur notre plateau il y a quelques semaines. Et c'est justement sur l'avancée de cette réforme que Inamuera Morgan Cross s'est interrogé ce matin. À quand un changement dans cette liste de PPN et PGC qui mériterait d'être rationalisé? À quand un changement de système, puisque ces prix bas assurés sur certains produits ciblés font grimper celui de beaucoup d'autres achats? Voilà en somme les questions de la représentante Tavini, et le ministre des Finances est allé dans son sens écouter.
Vous avez raison de dire que l'écrasement des marges que caractérise le dispositif PPN amène les commerçants à compenser en surmargeant sur les produits non réglementés. C'est pour cette raison que nous travaillons à une réforme qui consistera à réduire progressivement la liste des PPN et PGC et à développer parallèlement des accords par lesquels les commerçants s'engageront à appliquer des marges raisonnables convenues avec la puissance publique. Dans l'attente du déploiement de ces mesures à compter de 2025, nous n'avons pas d'autre choix pour répondre aux attentes les plus immédiates de notre population de continuer à composer avec le dispositif PPN-PGC.
Voilà, vous l'avez entendu, les PPN et les PGC ont dû sursis en attendant la réforme de tout le système d'encadrement des prix. Ce que note avec étonnement le ministre, c'est que le récent rapport parlementaire sur le niveau des prix outre-mer prend ce système en exemple. Il appelle l'État à s'en inspirer dans des départements comme les Antilles, la Guyane ou la Réunion. Ça n'empêchera pas Warren Dexter de poursuivre sa réforme, dont les grands axes seraient désormais acceptés par le patronat. En plus des accords de modération, un panier réduit de PPN sera conservé, avec toujours des marges réglementées, ce qui aura forcément un impact sur l'évolution des étiquettes.
Ainsi, le prix des produits qui étaient auparavant en surmarge devrait baisser. À l'inverse, les prix des produits qui étaient auparavant en PPN-PGC devraient quelque peu augmenter. C'est la raison pour laquelle la réforme prévoit également la mise en place d'aides directes de soutien au pouvoir d'achat des ménages les moins aisés. En cela, le gouvernement est en conformité avec sa politique de réorientation des aides publiques vers ceux qui en ont le plus besoin. Cette aide matérialise par ailleurs un autre axe de lutte contre la vie chère qui consiste à agir sur les revenus. En complément à l'action sur la structuration du prix des produits, l'emploi est évidemment le premier vecteur de cet axe.
Des aides ciblées donc, plutôt que des réductions pour tout le monde. À noter que le ministère des Finances travaille avec la vice-présidence en charge des solidarités pour que cette aide ciblée soit intégrée dans la carte à vocation sociale Fatoupou, anciennement Aotia. L'aide ne sera pas réservée aux personnes sans emploi, c'est ce qu'a précisé Warren Dexter ce matin.
Et puis une dernière question à l'Assemblée. Y a-t-il eu fraude dans les aides aux sinistrés de Mahaena?
Oui, des aides matérielles destinées aux sinistrés après les intempéries de décembre 2023 ont-elles été détournées par des employés de la mairie? Et surtout, qu'a fait le gouvernement gouvernement pour y remédier? C'est la question que posait ce matin à Minari Galnon la représentante Tavini Frangelica Bourgeois-Tarahou. Plusieurs appareils ménagers, des fours, des réfrigérateurs, des congélateurs, mais aussi des matelas n'auraient jamais été distribués à leurs destinataires. Ils auraient bénéficié à des administrés, des agents communaux ou encore des employés sous contrat CAE. Une situation que l'élu dit avoir signalée au ministère au début de l'année sans recevoir de réponse satisfaisante. Fin octobre, la ministre l'aurait assuré avoir pris contact avec la mairie. L'élu demandait donc un compte-rendu détaillé des démarches et des mesures prises par le pays. Écoutez la réponse de Minari Galnon.
Il n'appartient pas à un service du pays de contrevenir à la présomption d'innocence des agents municipaux et des usagers déjà traumatisés par le sinistre vécu pour mener des investigations sur site. Toutefois, Madame la représentante, dans l'hypothèse où vous disposeriez de preuves formelles de faux en écriture dans les attestations de sinistre établies par l'hôtel de ville de Mahaina, je vous invite à saisir les autorités compétentes pouvant résoudre ce problème.
Voilà, on reviendra plus en détail sur cette séance de l'Assemblée sur notre site radio1.pf.
Des nouvelles concernant le registre du commerce et des sociétés.
C'est Emmanuel Macron qui avait confirmé son transfert de l'État au pays lors de sa visite en juillet 2021. Mais depuis, ce transfert a été sans cesse reporté malgré l'impatience des entreprises. Le registre du commerce et des sociétés s'occupe notamment des immatriculations, des radiations ou encore de délivrer des cabis. Et les délais d'attente étaient excessivement longs, ce qui compliquait l'activité des sociétés. Mais ce transfert nécessitait beaucoup de démarches administratives. Il a fallu prendre plusieurs lois de pays à arrêter, créer la profession de teneur du RCS et arrêter les nouveaux tarifs. Et on sait à présent que le nouveau teneur du registre du commerce prêtera serment le 3 janvier. Il devra ensuite commencer à améliorer le service et rattraper les retards accumulés de longue date.
L'agence immobilière Très Sociale démarre ses opérations.
C'est son nom, Agence immobilière Très Sociale de Polynésie française ou association Aveyaora. Elle a été créée en 2021 et elle fait ses débuts officiels. Alors en passant par cette agence, les familles en grande précarité peuvent louer des logements à des prix très bas et bénéficier d'un accompagnement social. On connaît c'est déjà l'agence immobilière sociale de Polynésie française qui, elle, prend en charge des salariés pauvres ou les étudiants boursiers. Mais Aveyaora vise, elle, les familles en très grande difficulté et 5 viennent d'être logées. Écoutez les précisions de Caroline Perdry.
Presque le même nom, même organisation réduite sur un modèle associatif et même principe, l'agence loue dans le parc privé des logements meublés destinés à des familles en précarité pour une somme très réduite entre 5 000 et 25 000 francs à leur charge durant une période maximale de 2 ans au cours desquelles elle bénéficie aussi d'un accompagnement social renforcé. Aveyaora dispose au titre de l'année 2024 d'une subvention de fonctionnement de 69 millions de francs.
69 millions de francs donc pour cette année, mais une somme qui devrait grossir dans les années à venir. Son président Géry Biret explique que ces moyens vont être renforcés. Aveyaora devrait devenir un dispositif 2 à 3 fois plus important que l'agence immobilière sociale.
On termine avec cet événement au parc Paofai demain pour les femmes enceintes originaires des îles.
Et c'est l'association Partage Santé Pacifique en collaboration avec Naître en Polynésie qui est à l'origine de cette initiative. Les futures mamans des îles pourront se faire chouchouter dans des ateliers bien-être, mais surtout elles auront l'opportunité de partager leurs besoins et ressentis avec les autorités. C'est donc demain au parc Paofai de 7h30 à 13h. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. A noter, si vous l'avez manqué, que Jean-Michel Blanchemanche était l'invité de la rédaction ce matin, juste avant ce journal. Le directeur du Centre de formation professionnelle pour adultes répondait à nos questions sur les projets nombreux du CFPA. Bus école, nouvelle formation, nouveaux partenaires, nouveaux sites. Une interview à retrouver en intégralité sur notre page Facebook. Voilà, on se retrouve à 16h pour un prochain point avec l'actualité locale.
Merci Valdemar pour le journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.